Radio Kapi. Oh, Kapi. Noéla Luzito pour les journaux.
Les présumés rebelles Simba Maïmaï a saccagé le centre de santé de l'Ouemba à Nitouri, le bureau de la police et les maisons d'habitation de certains agents de riposte contre la maladie à virus Ebola. Et pour cause, ils accusent un agent de riposte de cette maladie en Nitouri d'être à la base de la mort par Ebola d'un agent de la Croix-Rouge au centre de traitement de Mangina. Le syndicat des enseignants du Congo Sieko exige à l'Assemblée nationale d'accorder à l'éducation nationale un budget conséquent pour la rémunération des enseignants notamment. La secrétaire générale de cette association le dit à l'occasion de l'ouverture ce lundi à l'Assemblée nationale de la nouvelle session budgétaire. Notre invité ce midi, c'est Sani Ambele Tobon, directeur pays de l'ONG International Trocaire. Il parle d'une table ronde organisée ce week-end à Bounia sur la lutte contre Ebola avec les leaders religieux venus des 5 territoires de cette province. Bonjour à tous. Le centre de santé de l'Ouemba, le bureau de la police et les maisons d'habitation de certains agents de riposte contre la maladie à virus Ebola ont été incendiés par un groupe de présumés rebelles Simba Maïmaï. Ces derniers ont fait incursion dans cette localité après le décès hier dimanche par Ebola d'un agent de la Croix-Rouge au centre de traitement de Mangina et dont le corps a été ramené à l'Ouemba. La population locale et ses hommes armés accusent l'équipe de riposte d'avoir causé la mort de la victime selon eux pour justifier le financement reçu pour lutter contre cette épidémie. Jean-Claude Loki.
C'est peu avant la tombée de la nuit que le corps de cet agent de la Croix-Rouge locale a été ramené à l'Ouemba, selon la police. C'est l'arrivée de la dépouille que la population sur place est soulevée, affirme le commandant de la police en territoire de Mambasa. Des manifestants en colère se sont attaqués à l'équipe de riposte qui accompagnait le corps. Les éléments de la police ont dû tirer des coups de balle en l'air pour disperser la foule. Peu avant 0h, c'est un groupe d'hommes armés, identifiés aux miliciens Simba Maïmaï, qui a fait incursion dans cette entité. Ces derniers ont incendié la maison du chef de ce village, le centre de santé de l'UMB ainsi que le poste de la police. L'administrateur du territoire intérimaire ajoute que les maisons appartenant aux personnes qui travaillent dans l'équipe de riposte ont été aussi saccagées. Un policier grièvement blessé à la machette a été évacué à l'hôpital. Jusqu'à ce matin, la situation reste tendue et le corps de la victime est abandonné dans le village. La police redoute que la dépouille soit récupérée par la population pour un enterrement non sécurisé. Bounia, Jean-Claude Loki Lillet, Radio Okapi.
Toujours dans le domaine sanitaire, notez le lancement ce week-end à Kalemie d'une mutuelle de santé par la ministre de la Santé du Tanganyika. Selon sa promotrice, la nouvelle mutuelle de santé Afia Kwaote vise toutes les catégories de la population. La cérémonie du lancement de cette mutuelle de santé a eu lieu en présence du vice-gouverneur de province, du vice-président de l'Assemblée provinciale et de nombreux autres invités. Expedi Mwamba Mubi a couvert l'événement.
Au moment du lancement de la mutuelle de santé à Afia Kwaote, sous les manguiers de la paroisse Christ-Roi, la ministre provinciale de la Santé, Madame Natacha Moulangé, a exprimé tout son soutien à l'initiative.
Monsieur le gouverneur de province, Monsieur Zoé Kabila Mwanzambala, a déjà mis un accent particulier dans son programme de gouvernement sur le social qui n'aurait pleinement son sens si nous n'assurons pas les soins de santé de qualité à la population, surtout celle démunie.
La promotrice de la mutuelle, Madame Vanessa Kaliza, explique le mobile de son action.
J'ai senti autour de moi qu'il y avait beaucoup de morts juste parce que les gens n'avaient pas accès aux soins, parce que les gens n'avaient pas de moyens. Donc à notre niveau, on s'est organisé de sorte que nous puissions créer une mutuelle qu'on se cotise afin que toutes les personnes sans distinction aucune puissent avoir accès à la santé.
La mutuelle de santé Afia Kwaote vise toutes les couches de la population en les catégorisant. La première catégorie fixe la cotisation mensuelle à 4 200 francs congolais et 30 dollars américains sur un an. Kalemi, expédie-moi Bamoubi, Radio Kapi.
Ouverture ce lundi à l'Assemblée nationale de la nouvelle session budgétaire. À cette occasion, le syndicat des enseignants du Congo Sieko exige à l'Assemblée nationale d'accorder à l'éducation nationale un pourcentage conséquent de ce budget en ce qui concerne notamment à la rémunération des enseignants. Suivez la secrétaire générale du Sieko, Cécile Chilombo, jointe au téléphone par Raphaël Kwasi.
Nous attendons de la session parlementaire qui est budgétaire, puisque vous savez, l'Assemblée nationale est l'autorité budgétaire. Et c'est cette Assemblée nationale qui fait que aujourd'hui nous puissions avoir une ligne budgétaire conséquente pour que la gratuité soit intégrante et effective, telle que le chef de l'État l'a voulu. Mais néanmoins, nous exigeons, nous en tant que syndicat, pour que l'Assemblée nationale puisse accorder à l'éducation nationale un pourcentage conséquent à ce qui concerne d'abord la rémunération des enseignants. Puisque réussir la gratuité qui est constitutionnelle, c'est réussir aussi le statut de l'enseignant qui est aussi constitutionnel.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, effectue une visite de travail en Belgique à partir de ce lundi 16 septembre, vous le savez sans doute. Selon Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, le but de cette mission est d'intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays. Et de son côté, l'analyste politique Joseph Kongolo pense que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un bon choix en commençant son voyage en Europe par la Belgique. Non seulement que les deux États ont une histoire commune, mais surtout, la Belgique est l'État le plus proche de la RDC, selon lui, du point de vue historique, politique et dans bien d'autres aspects. Par ailleurs, l'analyste politique Joseph Kongolo estime également que l'Union européenne devra mettre à profit ce voyage officiel pour chercher des mécanismes pour participer au relèvement de la RDC. Joseph Kongolo a été joint par Jean-Désiré Kanyama.
Nous pensons que le président de la République, qui a toutes les raisons du monde de commencer ce voyage en Europe par la Belgique, la République démocratique du Congo et la Belgique ont une histoire commune. Et non seulement ça, c'est-à-dire qu'il y a des relations diplomatiques séculaires avec la Belgique. Je crois que le président de la République a fait le bon choix d'entrer dans cet espace de 27 par la Belgique. La Belgique qui est pratiquement le pays le plus proche de la République démocratique du Congo, du point de vue historique, du point de vue politique et bien d'autres aspects d'ailleurs.
Qu'est-ce que la RDC peut gagner de ce voyage du chef de l'État en Belgique?
Non seulement que la RDC va gagner, mais c'est l'Europe plutôt qui va gagner. Je crois que la relation a changé. Vous savez que le monde entier, les milieux financiers, tous ont couru, n'est-ce pas, auprès de Félix, n'est-ce pas, qui a donné un certain renouveau à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Union européenne au travers ce voyage vers la Belgique. Donc la Belgique, c'est un portail à la fois pour le 27, qui vont devoir, n'est-ce pas, chercher des mécanismes pour participer au relèvement du géant qui est la République démocratique du Congo aujourd'hui.
Trois personnes sont portées disparues depuis le week-end dernier sur le point kilométrique 20 de l'axe Mba au Kamango dans le territoire de Bénior-Nord-Kivu. Selon la société civile locale, ces personnes qui sont parties à la pêche sur la rivière Nzuma seraient enlevées par les ADF car depuis lors, leurs familles sont restées sans nouvelles. La société civile de Béni-Territoire demande à l'armée de lancer des opérations militaires de grande envergure telles que promis le jour de passation des commandements des opérations militaires Sokola en secteur Grand Nord. Janvier Kassiré Kaka Sairio, rapporteur de la société civile du territoire de Béni, a été joint au téléphone par Sekombi Katondolo.
La crainte, c'est que hier, environ les 5 heures, les ADF ont crépité des balles dans la zone où ils se sont rendus. Et depuis ces 3 jours-là jusqu'à présent, les familles ne connaissent pas leur destination, aucun signe de vie de leur présence, vie de leur mort au niveau de la zone où ils sont partis faire la pêche. Avec les changements, les gens ont espéré à une accalmie et les gens ont cru à une paix durable. Et c'est pourquoi il y a des gens qui commencent à se rendre à Bruce pensant qu'il y a déjà des opérations qui sont en train d'être menées dans la zone, alors qu'il n'y a pas encore des opérations dans la zone. Alors la demande que nous lançons à l'armée, c'est d'éclater des opérations de grande envergure pour ne pas exposer la population. Parce que depuis qu'ils ont donné les mesures des opérations, l'ADF est devenu très virulent, les MMS sont devenus virulents, même les militaires incontrôlés sont devenus virulents. Maintenant, ce qui peut le casser aujourd'hui, c'est la population, que ce soit au niveau des Brousses, que ce soit dans les milieux urbains, à Béni-Ville, à Béni-Territoire, les menaces s'accentuent avec des morts chaque jour. Donc nous demandons que les opérations soient vraiment déclassées au lieu d'exposer comme ça la population.
La communauté internationale célèbre ce 16 septembre la journée internationale de la couche d'ozone. L'ozone est indispensable dans la vie des êtres vivants et même de la planète. Quelles sont les causes de la destruction de la couche d'ozone et quelles en sont les conséquences? Que faire pour préserver cette couche d'ozone? Les réponses dans ces explications de Jean-Pierre Elali Koko.
L'homme participe à la détérioration de la couche d'ozone par ses activités comme la climatisation de la maison, de la voiture, l'utilisation de certains produits tels que les peintures, les solvants, les bombes aérosols et les systèmes de réfrigération. Les premières victimes de la destruction de la couche d'ozone sont les êtres vivants de la planète. Comme les rayons ultraviolets arrivent à pénétrer directement dans la troposphère, les risques d'augmentation du taux de cancer de la peau sont à craindre. Il en est de même des maladies oculaires. L'autre conséquence majeure est l'effet de serre, car il a été démontré que le trou dans la couche d'ozone a contribué partiellement au réchauffement climatique. Et pour préserver la couche d'ozone, de nombreuses mesures ont été prises depuis que l'alerte a été donnée, comme l'interdiction de la vente et de la fabrication de produits nocifs. Rappelons que l'ozone est un gaz de couleur bleue et elle varie selon sa concentration. Il est très réactif avec les molécules qui l'entourent et peut produire des explosions. La couche d'ozone, quant à elle, désigne la partie de la stratosphère contenant une quantité relativement importante d'ozone.
L'invité.
L'invité de Radio Okapi ce midi, c'est Sania Mbeloboton, directeur pays de l'ONG internationale Trocaire. Il nous parle d'une table ronde organisée ce week-end à Bunia en Ituri sur la lutte contre Ebola avec les leaders religieux venus de 5 territoires de 7 provinces. Sania Mbeloboton s'entretient avec Isaac Remoyope.
Bonjour, messieurs les directeurs pays de l'ONG Trocaire. Vous avez organisé une table ronde avec les leaders religieux de l'Ituri sur la lutte contre Ebola. Pourquoi vous avez estimé nécessaire d'impliquer ces leaders dans la riposte contre Ebola?
Trocaire, c'est une agence catholique du Nord qui, dans la réflexion avec les agences catholiques du Nord, associées à d'autres confessions religieuses, nous avons pensé que, avec cette pandémie qui frappe l'Est en particulier et la RDC en général, la place de l'Église est prépondérante pour un pays laïque comme la RDC. Et c'est dans cette réflexion que nous avons pensé ensemble qu'il serait bien de continuer à impliquer les leaders religieux qui sont ceux qui traînent ou qui drainent tous les fidèles, tous les jours qui passent dans leurs églises et qui passent des messages qui touchent l'âme. Et comme le chef de l'État l'a dit, c'est une approche multisectorielle et plus en plus communautaire. Et comme les religieux ou les églises sont celles qui travaillent avec les communautés, nous avons pensé qu'il est temps que les personnes de Dieu et les églises, toutes les confessions religieuses, réfléchissent quelles sont les meilleures stratégies qu'on peut mettre en place ensemble pour éradiquer cette maladie à l'est de la RDC en général et en Ituri en particulier où nous nous trouvons.
Vous êtes parti de quel constat sur l'évolution de cette épidémie en Ituri pour initier cet échange avec les responsables des églises?
Nous avons constaté que petit à petit, l'épicentre devient Mambasa, qui est le lieu de beaucoup de résistance. Et aujourd'hui, nous avons 3 territoires qui sont touchés. Nous avons le territoire d'Aru, nous avons le territoire de Mambasa et nous avons le territoire d'Irumu. Et notre crainte est que les 2 autres territoires, qui sont déjà endeuillés par les problèmes d'insécurité, qui sont le territoire de Djougou et le territoire de Mahagi, qu'elles soient également touchées. C'est comme ça que nous avons convié tous les religieux, les leaders communautaires et l'autorité étatique pour que nous réfléchissions ensemble sur les stratégies que nous devions renforcer afin que cette maladie ne s'étende pas dans tous les territoires et enfin pour que cette maladie soit éradiquée.
Quel est l'objectif de votre démarche en impliquant ces leaders religieux dans la lutte contre Ebola en Ituri?
Au sorti de cette table ronde d'un jour qui a été organisée aujourd'hui, une déclaration finale a été lue. Et ce qui ressort de cette déclaration finale est que tous les leaders religieux, les autorités locales, les leaders communautaires reconnaissent que la maladie Ebola existe et elle est présente au sein de nous. Et que nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour l'éradiquer. Mais que le problème qui se pose, c'est les stratégies que nous avons mises en place. Il y a beaucoup d'erreurs là-dessus et que nous devons corriger. Une des stratégies que nous avons vues, c'est que les leaders religieux doivent aussi faire partie de la coordination, de la riposte. Et que les leaders religieux doivent être bien formés et comprendre ce que c'est que cette maladie. Parce que ce qui sort ici, c'est qu'ils sont moins formés et ils comprennent moins ce que c'est que cette maladie et les dangers. Alors que ce sont eux qui sont tous les jours avec les fidèles. Donc il y a un problème de formation, de recyclage, de compréhension de ceci et de formation des formateurs. Ça c'est un premier point que nous sommes rien. Nous sommes aussi entendus qu'il y a un problème de coordination et d'implication des leaders religieux par rapport à ça. Et nous avons aussi compris la méthode de sensibilisation. Nous avons pensé que la sensibilisation porte à porte, la sensibilisation au sein des églises, la sensibilisation dans les misères de prière, le référencement des hommes de Dieu vers les centres de santé, la valorisation des hommes de santé et même la formation des prestataires des zones de santé est fondamentale. Et c'est ce qui manque encore. Et également que d'autres territoires qui ne sont pas encore touchés par cette maladie, il faut déjà avoir des centres de surveillance. Et qu'il y a un œil et que tout ce qui est lavage de mains, que tout ce qui est pratique hygiénique, nous devions la renforcer et que c'est l'autorité qui doit être au devant de l'action pour que les autres suivent.
Est-ce que votre organisation se propose d'appuyer ses leaders pour relever tous les défis évoqués dans le cadre des ripostes contre Ebola Nituri?
Nous nous sommes donné une feuille de route et nous nous sommes dit on va s'aligner sur le plan trimestriel qui est le plan provincial des ripostes. Et au sorti de cette table ronde, nous nous sommes accordés également que nous allons présenter cette feuille de route et cette déclaration à l'autorité provinciale qui est chapeautée par son excellence monsieur le gouverneur. Et à partir de là, nous allons définir ensemble pas seulement les actions, mais un plan d'action chiffré en valeur monétaire et ensuite avec un temps limité. Et nous allons voir si avec les plaidoyers, nous allons voir qui apportera quoi afin que ça se réalise, y compris les leaders religieux cette fois-ci.
Merci beaucoup.
Je vous en remercie.
C'est la fin de ce journal sur Radio Okapi. À 12h30 heure de Kinshasa, vous aurez droit à la synthèse de l'actualité de la mi-journée. Restez à l'écoute du Média de la Paix.